1. Moi. 2. L'homme. 3. Nous avons dû ajouter un lit au pied de notre lit, juste pour que l'homme y repose dans la nuit ses 20 cm de cheville et de talon, car c'est fini le temps où l'homme dormait en diagonale sur un futon pourri dans une cellule louée 400 € par mois à une Allemande qui avait la phobie de la moisissure. Aussi l'homme ne pouvait-il pas prendre de douche parce qu'il lui aurait fallu mettre en route la ventilation mécanique contrôlée 30 minutes avant de prendre une douche, et l'homme ne pense pas qu'il a envie de prendre une douche 30 minutes avant de prendre une douche. À l'époque, il travaillait dans un restaurant tenu par une Française qui avait aussi une douche, mais comme elle était avare, il n'y avait pas d'eau chaude. Quand j'ai connu l'homme, il était très propre pourtant. J'ai lavé des tasses à l'eau froide en l'attendant parfois. L'homme sentait le vent. Maintenant, l'homme prend des douches et des bains quand il le veut, et ses pieds reposent en paix sur un matelas de luxe qui a appartenu à des morts qui s'en trouveraient fort satisfaits, car ils seraient outrés, tout comme moi, qu'une Française et une Allemande réunies aient ainsi pu exploiter la bonté d'âme de l'homme. Et aussi, il faut bien le dire, son indifférence au monde matériel. Que mon pseudo Francesca dans Madison Truc appelle le monde de détail. Le monde de détail, c'est une raison suffisante pour ne pas rapporter le DVD chez Gibert, ai-je décidé hier soir en me congratulant d'avoir tenu un nom et l'homme sent toujours le vent. 4. De même, avons-nous dû ajouter une couverture supplémentaire à ce lit supplémentaire. Cependant, elle ne tient pas, car comme il a été dit, l'homme a de longs pieds, et par quel mystère, cette couverture ne sait que rouler jusqu'au mien, pourtant placé bien plus haut, et qui ne supporte aucun type de couverture la nuit. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, je suis une phobique des pieds trop chauds, bien que je passe la plupart du temps, et la plupart de l'hiver, à essayer de les réchauffer. Je suis à ma façon aussi pénible que l'Allemande et la Française réunies. Chaque nation a son lot de caractéristiques pénibles. On en parlait l'autre jour avec l'homme sur le balcon d'une maison pleine de musiciens, ou plutôt de musicos. On disait du mal de nos pays d'origine. Les façons de paraître peuvent être différentes entre le Nord et le Sud, mais franchement, elles sont tout aussi désolantes. On parlait anglais comme on le fait entre nous, mais un gars qui avait un chapeau et qui ne mangeait que du cru nous a entendus et nous a dit en français « Je crois qu'il ne faut pas faire de généralité. » J'adore les généralités. J'adore les généralités. Pourquoi devrions-nous nous en passer? Pourquoi? Elles sont la seule chose réellement rassurante dans la vie qui n'est faite que de détails. Elles fonctionnent dans toutes les langues. Elles fonctionnent dans toutes les langues que je connais. Elles permettent de se parler entre malades de la parole. Elles permettent même de passer une des rares bonnes soirées parlées qu'on connaîtra jamais avec son amoureux de un an. Elles permettent simplement qu'il y ait des soirées parlées. Alors, que ce mangeur de cru ne vienne pas appuyer là où ça fait déjà assez mal et qu'il nous laisse rire. Qu'il nous laisse rire, l'homme nordien et moi, de ce qu'au même moment, sur des marchés, mer du Nord, mer du Sud, des gens se ressemblant aussi peu que l'homme et moi, pratiquent le même humour poli et disent eux-mêmes de telles généralités qu'il ne peut certainement rien leur arriver entre la place du marché et le retour à la maison, ce qui serait presque l'idéal que nous pourrions nous proposer de vivre, l'homme et moi, car nos paroles malheureusement ne sont pas faites pour s'accorder immédiatement comme le font nos corps et au bout de nos corps nos mains et nos pieds qui dans leur autonomie non seulement gagnent prix de beauté mais me semblent dotés d'une capacité d'adaptation dont je suis personnellement incapable. Semblent tout savoir, semblent sages de ce que nous n'avons pas obtenu en un an, l'homme et moi. Et il faudrait sûrement nous en tenir là, des mains aux pieds. Ça me semble hélas aussi raisonnable qu'improbable. 5. Le sport vous flingue les pieds à vie. Ma phobie des pieds chauds vient du sport qu'on me faisait pratiquer enfant. et j'ai préféré défendre mes pieds plutôt qu'entrer en compétition. Petite fille, je jetais mes chaussures n'importe où. Je réclamais des pointures supplémentaires, je disais que mes pieds étaient en prison. Je voulais aller pieds nus, j'enlevais mes chaussettes aussi, partout, n'importe où. Ayant choisi enfant le parti des pieds libérés et des espaces supplémentaires, je suis spécialement heureuse de partager deux lits avec l'homme. Et ceci est la raison pour laquelle je ne cesse depuis un an de chercher une solution à ce problème top 4 dit de la couverture, qui vient à la fois découvrir les pieds de géant de l'homme et ensevelir mes pieds de fanchoule. 6. Je suis extrêmement précise de la relation. 7. L'homme est extrêmement contraire de précis de la relation. 8. Hier, en plaisantant, j'ai demandé à l'homme s'il me donnait son autorisation d'écrire tout ça. Je plaisantais parce que, bien sûr, il n'y a pas plus de lui que de vous et moi ici. Tout est inventé comme dans un conte de fées. Tout est racine comme dans la vie, mais rien n'est vie. Voilà ce qu'est écriture et voilà ce qu'est lecture. Et voilà pourquoi nous en sommes tous malades, nous qui écrivons et qui lisons avec avidité irraisonnée. Toni Morrison a écrit ça juste derrière Flaubert, un peu plus brutalement encore, je sais plus où exactement, mais c'est dans un de ses premiers livres, un de ses livres tout de guingois qu'elle écrivait du temps qu'elle écrivait à fond. Alors, je plaisantais avec mon histoire d'autorisation, mais l'homme m'a répondu sérieusement, « Oui, parce que tu ne dis rien de mal. » Ça m'a tellement surprise. J'ai immédiatement décidé de dire du mal. Or, ça m'est très difficile car de l'homme, on ne peut rien dire de mal. Et nous ne sommes malheureusement pas dans une histoire de bien et de mal, malgré ce que l'homme pense de ce que peut être une histoire. Faudrait-il qu'il y ait dire le bien et dire le mal ? Ce serait tricher d'en faire un problème classé. 9. S'il m'était possible de dire du mal ici et n'importe où, comme avec mes chaussettes, c'est une évidence. Parvenu au 9e échelon, je ne serais sans doute pas aussi obsédée par mes pieds emprisonnés et par le confort des pieds de l'homme, ni aussi précise de la relation, parce que le mal qui sortirait de ma bouche me délivrerait du carcan d'être bonne et écoutante et pardonnante et compréhensive et au final totalement inoffensive. Car je pensais être une femme offensive. J'ai même cru être une femme agressive. Je ne suis qu'une femme réactive, ne souhaitant plus l'être. Et au vrai final, je ne fais que m'interdire d'avoir des nouvelles du mal. S'il m'était possible de dire du mal, et s'il était possible à l'homme de dire du mal, alors là, nous avancerions main dans la main vers le nirvana des amants unis, dans leur culpabilité enfouie sous le tapis. 10. Le nirvana n'est pas mon objectif. Ce qui n'est pas en soi un problème numérotable, mais bien plutôt la racine de tous mes problèmes domestiques, puisque ne calculant pas le nirvana, je dois passer par tous les états de qui n'a pas un idéal à la hauteur de ce que j'imagine est un idéal. Je le sais. Je le sais que mon idéal est mal placé. Il s'agrippe au mauvais barreau de la mauvaise échelle. Ce n'est pas la lune qu'il veut décrocher, ce n'est pas la paix, ce n'est pas l'harmonie. Comment aurais-je pu construire un idéal à partir de ce que j'ignore totalement ? Je n'ai construit un idéal qu'à ma mesure, c'est-à-dire aussi foutraque, aussi patraque, aussi détraque que contraire de idéal. Avec l'homme, ça nous arrive quelquefois de parler des temps reculés, ces temps où nos parents avaient affaire avec ce qu'était alors le monde. Et nous simplifions beaucoup les choses. C'est normal s'agissant de ses propres parents. Nous regardons leur vie avec nos yeux de même panier. Ils étaient à la guerre, elles étaient enceintes, ils étaient malheureux, ils étaient heureux. Ils avaient un idéal à la hauteur. Et même s'ils ont tout foiré, eux aussi, ils n'avaient pas à passer par ces états. Ceux qui m'interdisent, je le crois, l'aveuglement nécessaire, je le crois, à une vie domestique harmonieuse à laquelle je ne crois pas. N'étant point aveuglé, et au contraire né à moi-même depuis un bail, je me dois de préciser, dans le souci d'exhaustivité qui me porte à dresser depuis des lustres les listes que sont toutes les écritures, que j'entends le nirvana comme une simple espèce de synonyme de mort. Et ceci est certainement le double top one ever.